Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique Montpellier-Rennes. Les timbrés, Michel Soulier.
Avec vous aujourd'hui, Michel Soulier, la Poste Rurale. 13 000 bureaux de poste en France, 36 000 tournées de facteurs montrent que l'administration est encore dans les années 90, mais peut-être aujourd'hui ça a changé, que l'administration est la plus présente dans nos campagnes. Mais qu'en est-il en 2017, Michel Soulier ?
Ouf.
Aïe. Ouh. Aïe, 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 il y a des grands changements, je vois.
Il y a des mots qui fâchent.
Il y a des mots qui fâchent. Bon, alors allons-y.
Bon, ben, en matière d'actualité, vous savez très bien que la Poste essaye par tous les moyens maintenant de réduire ses coûts en matière de distribution du courrier. Bon, ça a des conséquences immédiates, et surtout en milieu rural, en fait, puisqu'on voit disparaître petit à petit les bureaux de poste. Bon, ils peuvent être remplacés par un agent privé, mais ça n'a pas la même portée. Et effectivement, actuellement, entre les tournées de facteurs qui s'allongent, donc une réduction des effectifs, la disparition de certains bureaux, etc., on est déjà loin des chiffres de 1990. Mmh. Bon, je n'ai pas ceux de 2017 en tête, mais ça ne va pas dans le sens de l'histoire.
36 000 tournées de facteurs, c'est beaucoup, beaucoup moins maintenant.
Oui, actuellement, c'est
peut-être la moitié moins.
C'est
difficile à estimer.
C'est difficile à dire. Okay. Il faudrait avoir.
On attend les statistiques de la Poste.
Oui. Bon, il faut savoir, il y a 36 000 communes, théoriquement. Donc, et normalement, toutes les communes doivent être desservies. C'est le principe de la Poste.
Et oui, finalement.
Et notamment de la Poste rurale. Hein. Donc, théoriquement, toutes les communes sont desservies.
Bah oui, c'est peut-être pas si faux alors.
Mais
les chiffres.
Bon, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Très souvent, on a remplacé le passage à domicile, dans chaque maison, dans chaque boîte aux lettres, par des panneaux à l'entrée d'un quartier avec X boîte aux lettres, etc. Donc cet aspect, je dirais que cet aspect contact qui existait entre le facteur et le destinataire des courriers est en train petit à petit de disparaître. Bon, il faut dire aussi une chose, c'est que je pense que la multiplication de courriers publicitaires et compagnie a sérieusement grévé le système, parce que avant, bon, c'était soit du courrier industriel ou commercial, soit du courrier
personnel, privé,
personnel. Bon, courrier personnel est en train de disparaître.
Remplacé par Internet, ses mails. Oui.
Et par contre, c'est remplacé par des quantités de publicité énormes. Et ça a certainement perturbé le fonctionnement classique du facteur, je dirais. Mais revenons à nos moutons.
Absolument.
Donc, parlons de la Poste rurale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 1er avril 1830, vous habitiez en dehors de la ville, vous étiez obligé de venir en ville pour soit envoyer du courrier, soit retirer le courrier.
Ah, vous aviez une boîte postale ou...
Non, le bureau recevait, mais ne distribuait pas. Il n'y avait pas de
facteur.
Pas de facteur, voilà. Tout bêtement.
Ouais. Hein.
Et surtout en milieu rural. Hein. Dans les villes, elles, s'étaient organisées intramuros, ça c'était autre chose. Mais dans les campagnes, il n'était pas question d'avoir le courrier à domicile. Et ce n'est qu'une loi de juin 1929, appelée...
Près de 100 ans après.
Oui, appelée la loi Sapé, qui a donc défini... la Poste rurale, et ça avait été d'ailleurs voulu par Charles X à l'époque, et ça rentra en vigueur le 1er avril 1830. Et il y avait déjà 35 000 communes. Donc, c'était vraiment une révolution. Et donc, le démarrage s'est effectué par la création de facteurs ruraux. Il y a eu 5 000 facteurs en 1830 à la création. Il y en avait déjà 15 000 en 1847. Et puis, ça a continué à augmenter. Et cette loi également précise bien que le fait d'être desservi en campagne aurait un coût. Bon, et à l'époque, c'était 10 centimes. Une lettre prise en milieu rural pour une destination payait
10 centimes de plus que si elle partait de la ville.
Que si elle partait de la ville. Si elle partait de la ville pour une destination rurale, elle payait aussi les 10 centimes.
La pénalité des
c'était pas une pénalité, c'était... Non, c'était le service.
Et qu'il fallait payer.
Et il fallait trouver de l'argent pour payer ces facteurs, qui n'existaient pas. Mais quel dur métier au début. Les tournées de facteurs au début de la poste rurale, c'était entre 20 et 45 kilomètres par jour, à pied. Il n'y avait ni bicyclette, ni deux chevaux, ni mobylette, c'était à pied. Et d'ailleurs, les premières années, il n'y avait qu'une tournée tous les deux jours, puis elle passera au quotidien. Et pardon, pour remplir cette mission, eh bien, on a utilisé essentiellement d'anciens militaires.
Aguerris à la marche.
Exactement. Des soldats qui avaient fait les guerres de Napoléon, etc., qui étaient habitués à faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est eux qui ont été favorisés, disons, à l'embauche, si l'on peut dire, à l'époque, pour pouvoir faire ces tournées qui étaient très dures.
Donc c'était des journées de travail de combien d'heures,
enfin, 10 heures. Je pense que ce n'était pas compté en heures.
Hein. C'était pas compté. Ouais. Ça représentait quand même plus d'une journée, j'imagine.
Ah non, il devait boucler dans la journée.
Il devait boucler dans la journée.
Ah, oui. Non, c'était, il devait boucler dans la journée. Alors, on a mis des systèmes en place que le philatéliste, lui, va retrouver au travers des marques postales quand il va avoir des courriers ruraux en main. Bon, donc les 10 centimes qu'on appelle le décime rural va être créé pour ça. Alors c'est intéressant parce que l'administration a dit très bien, une lettre ramassée en milieu rural et qui part vers un bureau, on mettra un cachet en rouge, origine rurale. Par contre, si elle va d'une ville vers
la campagne,
on mettra un cachet en noir. Et donc, on pouvait identifier, dès le départ, les lettres d'origine rurale et les lettres à destination rurale.
Alors, quand on dit rural, c'était des villes de combien d'habitants maximum?
Non, c'était pas en fonction du nombre d'habitants, c'était en fonction des bureaux existants. Hein, vous pouviez avoir un bureau qui desservait 400 habitants, vous pouviez avoir un bureau qui desservait 2000 habitants. Ou 3000. Donc, c'était pas en fonction de la taille de la ville. Il y avait eu création de bureaux. Donc, c'était soit un bureau de recettes, soit un bureau de distribution. Hein, les bureaux de distribution dépendant du bureau de recettes. Mais du moment qu'il y avait un bureau, ça passait par le bureau.
C'est ça, il fallait.
Les facteurs étaient rattachés à un bureau existant. Et dans ce bureau, il y avait X tournées de facteurs.
C'est ça. Donc, une poste rurale, c'est une poste qui n'a pas de bureau. Une ville qui n'a pas de bureau.
Enfin, non, c'est un village.
C'est un village, alors, pardon,
je vais vous expliquer comment ça marchait. Vous aviez, dans un village ou un bourg, vous aviez un bureau de poste. Bon. À ce bureau de poste, était rattaché un certain nombre de tournées de facteurs. Donc, de facteurs qui faisaient une tournée. Les communes ou les hameaux environnants faisait une demande pour avoir une boîte aux lettres. Il n'y avait pas de bureau, mais il demandait une boîte aux lettres. Et à ce moment-là, on installait par commune une boîte aux lettres que devait relever le facteur. Et dans cette boîte aux lettres, il y avait un petit, une petite lettre en cuivre qu'on appelle le timbre de lettre. Et quand le facteur venait relever le courrier, il devait imprimer cette lettre sur le recto des lettres qu'il levait et imprimer son part, ce qu'on appelle le part, c'était son trajet sur lequel il notait les boîtes qu'il avait relevées, le courrier qu'il avait ramassé en cours de route, etc. Et donc, on pouvait suivre exactement, on savait une lettre, ah, il y avait un B, c'était la tournée, la boîte lettre B de la tournée de tel bureau, puisqu'il y avait aussi le cachet du bureau quand il revenait. Donc c'était
hyper bien organisé.
C'était très bien
organisé. Méthodique.
Très méthodique. C'était, je vous l'ai déjà dit, dans le souci finalement de suivre, de pouvoir suivre exactement le trajet d'une lettre. Et on savait d'où elle partait, quand elle partait, comment elle allait voyager et où elle arrivait. C'était un suivi, on aimerait bien avoir ça de nos jours, hein. Voilà, donc c'était ça. Donc, cette poste rurale, elle s'est développée, hein, et puis elle s'est modernisée quand on a commencé. Les tournées de facteurs ont diminué en distance, mais elles se sont multipliées, et puis ça s'est mécanisé, etc. Et actuellement, la plupart des tournées se font en voiture. Bon.
Voiture électrique, parfois même.
Même voiture électrique. L'autre aspect concernant la poste rurale, c'est ce qu'on a... Alors, c'est bien postérieur à la création de la poste rurale, puisque la création de la poste rurale, c'est 1830. C'est ce qu'on a appelé la poste automobile rurale. Donc, ça, c'est une invention qui remonte après la guerre de 14. En 1926... le ministère des PTT s'est rendu compte qu'il y avait des zones, qui étaient très mal desservies au niveau postal. Bon, il pouvait y avoir un facteur, mais il n'y avait pas de bureau de poste à proximité, donc c'était compliqué. Et donc, elle a décidé, en 1926, de tenter des expériences en créant une poste automobile rurale. C'était le moment du développement de l'automobile. Et ils ont sauté sur cette invention nouvelle, enfin pas nouvelle, mais qui se développait. Et donc, elle a créé ce qu'on a appelé la poste automobile rurale. C'était quoi? Eh bien, c'était un bus, un petit bus, qui appartenait à une compagnie privée avec laquelle la Poste avait passé une convention. Et ce bus faisait une tournée avec des voyageurs. Il transportait aussi les colis et le courrier. Et dans les villages qu'il traversait, là où il n'y avait pas de bureau de poste, eh bien, une personne était chargée justement de la partie courrier. C'est ce qu'on a appelé le correspondant postal. Et ce correspondant postal, il avait un contrat avec la poste. Il devait mettre sa maison à disposition une heure avant l'arrivée du bus et s'occuper de faire distribuer le courrier derrière. Mais il avait aussi le droit de vendre des timbres, etc. Et ces correspondants postaux et ces circuits de poste rural, le département de l'Hérault, encore une fois, a été un des départements qui a développé ce système-là. Et ça s'est développé, bon, peut-être pas dès 1927, mais dans les années 30, et ça a perduré jusque dans les années 60. Et on trouve, bien sûr, au niveau philatélique, on trouve des cachets de correspondants postaux. Et dans l'Hérault, on disposera de 7 circuits de correspondants postaux. Chacun rattaché à une agglomération dans laquelle il y avait une gare. de façon à pouvoir assurer, d'une part, de pouvoir aller n'importe où sur le territoire français à partir du train. On prenait le bus, le bus local qui nous amenait à la gare, et puis on pouvait aller n'importe où. On pouvait récupérer les colis transportés par le train. Et donc, toutes ces lignes s'ancraient sur une ville avec une gare. Et donc, dans l'Hérault, il y a eu sept lignes, sept circuits de postes automobiles rurales, partant de Bédarieux, de Clermont-l'Hérault, de Lodève, d'Aulargues, d'Olonzac, de Saint-Chinian et, au comble de l'horreur, de Sommières dans le Gard. Alors, pourquoi Sommières ? Ben, tout bêtement, parce que tout le circuit, bien, il allait à la gare de Sommières, mais tout le circuit se faisait dans le département de l'Hérault. Donc, il est considéré comme un circuit de l'Hérault, bien qu'il soit rattaché.
On savait franchir les frontières départementales.
Voilà, il savait franchir les frontières départementales. Donc, ça a très bien marché. Ça a périclité au moment de l'explosion de l'automobile. Quand l'automobile est devenue, je dirais, un bien de consommation courante, que ça s'est multiplié, eh bien, ça a tué la poste rurale automobile, parce qu'on n'avait plus besoin ni de prendre le bus pour aller à la gare, ni pour aller au bureau de poste. Bon, on avait les voitures, donc ça a périclité comme ça. Mais c'était une invention assez géniale. Et si on revient à ce que... vous souvenez, on a fait une émission sur le ferroviaire. Si on revient à ce qui existait au travers des lignes ferroviaires locales, si on y rajoute les postes rurales automobiles, donc ça c'est dans les années, je dirais, 30, tout le département était desservi.
Il y avait un maillage très serré.
Un maillage, y compris dans les Hauts-Cantons, y compris dans des coins très reculés. Oui. On a eu un maillage, et ça... Peu de départements ont été équipés comme ça. Et donc, il y a eu un maillage très, très important dans le département de l'Hérault. Et tout ça, on va le retrouver au niveau des cachets, des lettres, etc. On peut retracer toute cette histoire rurale au travers du courrier.
Quelle chance d'être philatéliste dans l'Hérault.
Ah oui, c'est un avantage, mais il n'y a pas que les roues.
Merci Michel Soulier. Au revoir.
Au revoir.
C'était Les Timbrés. Michel Soulier, Association philatélique Montpellier-Rennes.